Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans RTL Midi en ce vendredi que l'on vous souhaite au passage excellent. Soyez les bienvenus jusqu'à 14h. C'est votre rendez-vous pour vivre et commenter en direct l'actualité. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Vous êtes nos experts, comme d'habitude, pour dialoguer, avis et débat dès maintenant au 3210 3210. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Christelle, l'actualité, c'est d'abord le ras-le-bol des gardien de la prison de Vendin-le-Vieil.
Une centaine de surveillants a refusé de reprendre le travail après la tentative d'assassinat de 3 d'entre eux par un terroriste. 20 autres établissements ont suivi le mouvement par solidarité. Comment assurer leur sécurité? Nous y reviendrons avec l'invité d'RTL Midi, représentant de FO Pénitentiaire. La direction de Lactalis, convoquée à Bercy tout à l'heure pour s'expliquer sur ses défaillances face à la salmonelle. Angela Merkel promet un nouveau départ en Europe. Elle a enfin obtenu un accord de gouvernement avec les sociaux-démocrates. Dans RTL Midi aussi, le palmarès des PV, 27 millions de verbalisations en 2016, un bond de 11% grâce au radar car il y a de moins en moins de contrôles routiers et vous pouvez en témoigner si vous le souhaitez, 32-10. Un gagnant du loto presque malgré lui, mais il empoche tout de même la bagatelle de 13 millions d'euros. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Du classique, gris au nord, bleu au sud.
Oui, le temps restera encore très gris cet après-midi dans le nord et le nord-est avec toujours ces nuages bas. On espère quelques éclaircies dans la partie nord-ouest jusqu'au centre Val-de-Loire et jusqu'au Poitou-Charentes, alors que dans le sud, le temps est très ensoleillé, belles éclaircies dans le sud-ouest et du grand soleil entre les Pyrénées, la Méditerranée et sur les Alpes, et des températures qui sont à peu près de saison pour cet après-midi. 6 degrés de minimum à Clermont-Ferrand, 7 degrés à Quimper et Paris, 9 degrés à Montauban, 12 à Marseille et 15 degrés à Nice.
Et Patricia, bien sûr, de retour avant 13h sur RTL. Après 13h, une histoire, un jour sur la Terre avec Jean-Alphonse Richard, et à 13h50, pour rire, Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne la tradie, la baguette de tradition française. Faut-elle, comme le demandent les boulangers, l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme l'est depuis peu d'ailleurs la pizza napolitaine de nos voisins italiens? Eh bien, c'est assez partagé. Vous y êtes favorable, j'ai envie de dire, à seulement 47%. Alors expliquez-vous vos appels dès maintenant au 3210. Anne est boulangère, meilleure tradition de Lyon en 2012.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je suis 100% d'accord avec cette proposition. Il faut défendre le 100% fait maison. Il faut à tout prix que Emmanuel Macron nous soutienne pour cette proposition du 100% français, tradition qui représente notre savoir-faire.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et pour commencer, quand ça veut pas, ça veut pas. La mairie de Paris est empêtrée en ce moment avec l'énorme retard sur le déploiement du nouveau Vélib. Et à cela s'ajoutent les déboires des agents privés chargés de mettre les PV de stationnement puisqu'il n'y a plus de pervenche. En une semaine, ils sont deux à s'être retrouvés au poste, Olivier Bois.
Oui, le premier a été arrêté mardi, contrôlé positif au cannabis. En plus, il a insulté l'agent de police. Le deuxième a été arrêté, lui, hier soir, positif également au cannabis. Il avait de la drogue cachée dans sa chaussette. Et pour couronner le tout, il n'avait même plus le permis puisqu'il avait perdu tous ses points. Voilà qui fait tâche pour ces nouveaux agents de stationnement qui remplacent la police, vous l'avez dit, depuis le 1er janvier. De vrais terminators de la contravention, si vous me permettez l'expression, avec une méthode implacable. Ils sont 6 en voiture à sillonner les rues de Paris avec un système embarqué. Ils scannent les plaques d'immatriculation pour repérer en temps réel, automatiquement, qui a payé ou non sa place de stationnement. Évidemment, vu la mission, c'est quand même mieux pour ces nouveaux agents d'être irréprochables. Certes, ils sont salariés d'entreprises privées, mais le système est tout de même chapeauté par la mairie de Paris. Ils sont d'ailleurs assermentés. Ils ont signé un papier où ils s'engagent, je cite, à observer en toutes circonstances les devoirs qu'impose leur mission. La mairie de Paris, qui est un peu embêtée avec cette histoire, demande aux deux entreprises concernées de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Bref, il va falloir être un peu plus pointilleux sur le recrutement.
Les amendes de stationnement, deuxième cause de PV, si l'on en croit le palmarès publié aujourd'hui par le magazine Auto Plus pour 2016. 27 millions de verbalisations en tout, une augmentation de plus de 11% due au déploiement des radars, car les deux tiers des PV représentent des excès de vitesse. En revanche, moins de verbalisations sur l'alcool et le téléphone au volant, parce que les contrôles routiers sont moins nombreux. Nous attendons vos témoignages au 3210. Nous y reviendrons avec notre spécialiste auto, et vous, nos experts, et vous pourrez dialoguer tout à l'heure avec Christophe Bourreau.
Nous allons à présent dans le Pas-de-Calais où les gardiens de prison de Vendin-le-Vieil ont refusé, vous le disiez en titre, Christelle, de prendre leur service ce matin, alors qu'un islamiste proche de Ben Laden a tenté d'assassiner hier 3 surveillants. Ce passage à l'acte, ils le redoutaient car l'homme était menacé d'extradition vers les États-Unis. Ils avaient même prévenu leur hiérarchie et ce matin, Frank Hanson, ils ont donc manifesté pour dire leur colère et leur lassitude.
Oui, en effet, les surveillants que l'on sent à bout, très remontés devant les grilles de la prison. Ils ont d'ailleurs accueilli sous les applaudissements leurs collègues qui ont été agressés hier par ce détenu islamiste. Vous l'avez dit, que l'on disait prêt à tout pour éviter cette extradition aux États-Unis. Et parmi ces gardiens, Michel, qui débraye pour la première fois depuis qu'il est en poste.
L'incident qui s'est passé hier après-midi est suffisamment grave. Je n'ai pas envie que la prochaine étape soit le décès d'un collègue. Quand on voit les conditions de travail qui se dégradent, on commence à attraper la boule au ventre le matin quand on vient au boulot.
Les autres tôles de France commencent à nous suivre. Il ne faut pas lâcher. C'est une question de vie ou de mort pour les surveillants. On en a marre de se faire tabasser. On doit être défendu par nos patrons.
Chahuté par ses agents, le directeur de cet établissement haute sécurité a tenté de calmer les esprits. Richard Bauer assure que toutes les mesures de sécurité ont été prises, qu'il n'y a pas eu de défaillance.
Dans cette affaire, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Nous avons pris les mesures qui s'adaptaient. Et c'est un détenu qui ne présentait aucun signe d'agressivité. Rien ne laissait penser à un passage à l'acte.
Mais malgré les sanctions encourues, ces gardiens de Vendin n'ont pas l'intention pour l'instant de reprendre leur service.
Et Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais, s'est rendue sur place. Elle a échangé avec les gardiens de prison.
C'est des surveillants, Madame Le Pen, que vous devez parler, et non avec le directeur.
J'essaye d'arriver.
Les conditions de sécurité des agents face à des détenus dangereux ne sont pas remplies. Voilà, c'est clair.
On n'arrive plus à travailler aujourd'hui.
Et voilà. Quand on apprend que le Gus en question avait des ciseaux, avait un couteau, alors qu'on connaît son niveau de dangerosité et que manifestement on savait qu'il comptait effectuer quelque chose pour pouvoir rester dans la prison et pas être extradé, on se dit que voilà, la loi ne permet pas aujourd'hui d'appliquer des mesures qui sont des mesures qui vous protègent.
Voilà, sachez que par solidarité avec les gardiens de Vendin, une vingtaine d'établissements ont débrayé ce matin. On va y revenir sur cette question de la surveillance des terroristes en prison avec notre invité tout à l'heure, Johan Carrard du syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière. En bref, à Marseille, premier règlement de compte de cette année 2018, un mort et un blessé grave dans un quartier animé du centre de la ville. Les victimes circulaient hier soir sur le parking de la place Jean Jaurès lorsqu'ils ont été pris par des tirs de Kalachnikov.
Le patron du groupe Lactalis reçu tout à l'heure à Bercy, après le scandale sur le lait infantile contaminé par une salmonelle. Une faute grave, disait hier Bruno Le Maire, qui exige plus de transparence et de responsabilité. Quant aux producteurs laitiers, malgré la fermeture de l'usine de Cran en Mayenne, ils continuent de fournir le géant laitier. Et ils attendent, eux aussi, Patrice Gabart, des explications de la part de Lactalis.
À la tête d'un élevage de 75 vaches laitières à L'Aubrière en Mayenne, à une quinzaine de kilomètres de Cran, Hervé Chabot continue de livrer son lait à Lactalis, près de 3500 litres tous les deux jours. Mais il attend aussi des explications.
Il y a des enquêtes en cours qui détermineront, je l'espère, d'où provient cette salmonelle. Moi, je ne suis pas scientifique, je suis producteur de lait. Je fais confiance aux gens, tout simplement. Après, c'est normal de prendre toutes les mesures, parce qu'on parle de nourrissons, quand même.
Mais cette salmonelle, très proche de celle déjà détectée sur le même site en 2005, pourrait également provenir d'une exploitation laitière. C'est l'une des hypothèses de l'Institut Pasteur.
Ben j'espère que non, mais rien n'est écarté. Ils évoquent peut-être, par exemple, un rongeur dans un ensilage d'herbe ou de maïs, ou un rongeur dans du foin, de prairie, ou n'importe quoi, quoi. Tout est possible. Il y a plein de provenances de la salmonelle. On est à l'abri de rien, nulle part. Ça peut être en exploitation agricole. Comme être ailleurs, quoi. Maintenant, faut laisser les enquêteurs faire leur travail.
En attendant, tous les producteurs de Lactalis doivent en principe recevoir à partir d'aujourd'hui un courrier d'explication signé de la direction du groupe. Une demande qu'ils avaient formulée eux-mêmes dès le début de cette crise.
Un reportage Patrice Gabart et puis cette information qui nous parvient à l'instant. Des juges d'instruction ont ordonné un non-lieu en faveur d'Hassan Diab, l'unique suspect de l'attentat de la synagogue de la rue Copernic à Paris. Un attentat qui avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés en octobre 1980.
Il est 12h39, la suite de RTL Midi, c'est dans un instant avec une histoire comme vous les aimez. C'est un gagnant du loto contre toute attente. A tout de suite.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
13 millions d'euros, c'était Noël avant l'heure pour un joueur de loto début décembre. Le plus gros gain sur Internet de l'année 2017 pour quelqu'un qui boudait le loto depuis des décennies et qui n'était pas franchement en veine. Mais c'était sans compter sur les jeux du hasard et de l'amour, Christophe Ponzio.
Oui, hasard total, puisque déjà ce gagnant s'est trompé de semaine en jouant. Il a coché le mauvais tirage, en tout cas pas celui qu'il voulait. Bingo, le 2 décembre dernier, cette erreur lui a rapporté le gros lot. Un malheur n'arrivant jamais seul, on va le plaindre. Notre chanceux n'a en fait choisi aucun des 6 bons numéros. Non, c'est la machine qui l'a fait pour lui grâce au système Flash, ce système de grille à numéros aléatoire, tellement aléatoire qu'au moment de découvrir son gain, le gagnant ne se souvenait même plus d'avoir joué. Dans cette histoire, où est l'amour, me direz-vous ? Eh bien, nulle part, en fait, puisque le petit vénard a joué le jour où sa compagne l'a quitté, en plein chagrin d'amour, qui n'a sans doute pas dû durer très longtemps. Avec 13 millions d'euros en poche, voilà un sacré lot de consolation. Aujourd'hui, avec son nouveau jackpot, il souhaite garder l'anonymat, gâter ses proches, s'investir dans l'humanitaire et finir les travaux de sa maison avec amour, sans ne plus rien laisser au hasard.
Voilà une belle histoire. Merci Christophe Ponzio. Un accord enfin, 3 mois et demi après les élections législatives en Allemagne. Angela Merkel et les sociaux-démocrates ont trouvé un programme commun de gouvernement. La chancelière a promis un nouveau départ pour l'Europe. Blandine Milsan, vous êtes à Berlin pour RTL. Ça peut aussi changer des choses pour nous, pour la France.
Oui, absolument, parce qu'il y a un point de ce programme de 28 pages qui va faire plaisir à Emmanuel Macron, puisque les sociaux-démocrates et les conservateurs veulent renforcer la zone euro de manière durable et la réformer en étroite collaboration avec la France. Le texte évoque même un futur budget d'investissement de la zone euro, donc c'est une porte ouverte aux propositions du président français, ce qui pourrait créer une nouvelle dynamique en Europe. Parmi les autres mesures envisagées, une limitation des arrivées de réfugiés entre 180 000 et 220 000 par an, ce ne sont pas les mêmes ordres de grandeur qu'en France. Et puis en matière de fiscalité, pas de hausse d'impôts pour les riches, mais des baisses d'impôts pour les plus pauvres et les revenus intermédiaires. Alors, il faut bien souligner que ce document de 28 pages, c'est ce qui doit servir de base aux véritables négociations de gouvernement. Le SPD doit encore l'approuver, ce texte, lors de son congrès le 21 janvier prochain. Et puis seulement après, eh bien, les négociations de gouvernement se mettront en place. Et ce qui est sûr, quand même, c'est que c'est quand même un bon point pour Angela Merkel qui se rapproche de son 4e mandat.
Merci Blandine Milsan, RTL à Berlin. En Tunisie, plus de 780 personnes ont été arrêtées depuis le début des troubles sociaux lundi, un mouvement contre la hausse des prix. Chaque année en janvier, d'ailleurs au moment de l'anniversaire de la révolution de Jasmin, il y a des manifestations, mais elles sont beaucoup plus mobilisatrices cette année.
Il y avait 2 absents de marque ces derniers jours aux commémorations des attentats de Charlie Hebdo. François Hollande et l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Ils n'avaient pas été conviés. Mais par qui ? Vincent de Rosier, l'Élysée et la mairie de Paris se renvoient la balle.
Oui, c'est parole contre parole et personne ne veut endosser la responsabilité de cette énorme boulette. Première version, celle de l'Élysée. Un conseiller assure que l'organisation des commémorations, quelle qu'elle soit, revient à la mairie de Paris. Ce sont eux, selon ce conseiller, qui gèrent les invitations et l'organisation. Faux, répond la mairie de Paris. Au service de presse d'Anne Hidalgo, on raconte que la liste des invités est composée par l'Élysée, mais que les cartons d'invitation, eux, sont bien envoyés par la mairie de Paris. Mmh. Alors maintenant, selon nos informations, la mairie de Paris a bien reçu une liste d'invités de l'Élysée. La mairie s'est d'ailleurs étonnée, auprès d'un proche d'Emmanuel Macron, de ne pas voir François Hollande parmi les invités. Ce proche du président répond alors que François Hollande est absent le jour des commémorations de Charlie. En l'occurrence, c'est vrai, il était en vacances, mais peut-être aurait-il pu revenir. C'est donc bien un loupé de l'Élysée et dans une moindre mesure de la mairie de Paris qui aurait pu être corrigé à temps. François Hollande, lui, a confié à un proche qu'il était surpris et déçu de ne pas avoir été convié.
Décryptage du service politique, en l'occurrence de Vincent de Rosier. Le débat fait toujours rage entre celles qui défendent les balances ton port et celles qui revendiquent pour les hommes une liberté d'importuner. Brigitte Lahaye, l'une des signataires de la tribune publiée dans Le Monde, a même expliqué, et ça a fait du bruit, qu'on pouvait jouir durant un viol. Elle sera l'invitée ce soir d'une émission sur TV5 Monde et elle regrette écouter ses propos.
Je regrette que ça ait été mal compris et surtout sorti de son contexte. C'est malheureusement une vérité. J'aurais peut-être dû ajouter ce malheureusement en disant malheureusement on peut jouir d'un viol, ce qui rend évidemment la reconstruction souvent encore plus compliquée et encore plus difficile.
Vous êtes blessée par toutes ces attaques?
Bah, ça fait pas tellement du bien, non?
Vous en souffrez, Brigitte?
Je crois que ça se voit. Pas grave, ça ira mieux demain.
L'émotion de Brigitte, là, est dans cette affaire. Elle incarne la France autant que la Tour Eiffel. Et si la baguette entrait au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un combat que veut mener la Confédération de la boulangerie-pâtisserie pour défendre la tradition. La tradition, c'est son nom, c'est aussi une tradition, Jacques Serret. Vous vous êtes rendu dans une boulangerie du 15e arrondissement de Paris.
Oui, dans le fournis de Jean-Yves Boulier, des traditions. Il en fabrique en moyenne 500 par jour. Des ingrédients de base, farine, eau, sel, levure et un peu de levain. Et toutes ces baguettes doivent être façonnées à la main.
C'est un peu le retour aux sources. Il y a beaucoup de fermentation, au moins 24 heures en bac, de façon à développer les arômes. C'est ce qui permet d'avoir une baguette qui se conserve bien, une mie bien alvéolée, et qui a un terme de goût et n'a rien à voir avec une baguette blanche normale.
Et pour satisfaire les clients, ici, on cuit toute la journée.
Là, c'est parti pour.
On va mettre la buée, on va mettre 18 minutes.
18 minutes au four à 260 degrés. À la sortie, une baguette couleur caramel, légèrement farinée et surtout croustillante.
Au niveau odeur, au niveau croustillance, rien de tel qu'une baguette fraîche, quoi. Elle n'est pas blanche ni trop cuite, donc elle est juste parfaite.
Alors forcément ici, les clients comme Pascal semblent approuver cette demande d'entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Ils ont raison, ça la différencie d'une baguette conventionnelle. Elle a beaucoup plus de goût, elle se tient mieux.
Qu'est-ce que vous prenez généralement ?
Tout le temps. Et le jour où il n'y a pas de tradition, je suis malade. C'est à ça qu'on reconnaît le bon boulanger.
Des boulangers qui vont tenter de convaincre Emmanuel Macron de porter ce projet alors qu'ils seront reçus cet après-midi à l'Élysée.
Effectivement, et c'est célébrons ensemble la baguette et le bon pain au 32-10. Vous pourrez dialoguer tout à l'heure justement avec le patron des boulangers pâtissiers français qui défendra donc son bout de pain devant Emmanuel Macron tout à l'heure à l'occasion de la dégustation de la galette. Une galette d'1,20 m sans fèves puisque vous le savez, il n'y a pas de roi à l'Élysée.
12h48, la suite de RTL Midi et notre premier invité dans un instant est Johan Carrard de FO Pénitentiaire. On va essayer de comprendre comment aujourd'hui on peut gérer au mieux les terroristes et les détenus radicalisés. À tout de suite.